Vous écoutez France Culture.
6h35 minutes. Et nous retrouvons bien sûr Jacques Munier pour la revue du jour et l'essai du jour. Bonjour Jacques.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'essai du jour, environnement et société par Chantal Aspe et Marie Jacquet, c'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.
Voilà, vous allez recevoir Marc, Daniel Cohn-Bendit tout à l'heure. Je sais que vous ne parlerez pas beaucoup d'écologie, mais surtout d'Europe. Alors on se souvient du pavé dans la mare écologiste qu'il a récemment lancé depuis les colonnes du journal Libération, c'était vendredi dernier. Il dénonçait entre autres une baisse de régime de l'écologie politique en France et une panne des idées. Le paradoxe, disait-il, c'est qu'on existe à l'Assemblée, au Sénat et au gouvernement, mais plus dans la société. Nos succès institutionnels ne se sont pas accompagnés, bien au contraire, d'une dynamique citoyenne. Notre image est devenue détestable. Nous avons échoué là où on voulait redonner espoir en faisant de la politique autrement. Le constat est alarmiste. Il est de bonne guerre, venant d'un responsable politique que préoccupe les orientations stratégiques de son mouvement. Le livre de Chantal Aspe et de Marie Jacquet apporte des éléments de solution à cette paradoxale crise de croissance que traverse l'écologie politique dans notre pays. D'abord, en resituant le mouvement vert dans l'histoire sociale et la dynamique citoyenne dont il est issu, celle d'une nouvelle forme d'action militante définie comme la participation associative, dont témoigne l'essor des associations et ONG, leur participation croissante aux instances de décision locale et nationale, voire internationale. Ensuite, en montrant comment les sciences sociales peuvent observer et analyser les interactions entre milieu social et environnement, pas seulement dans le sens des conséquences de l'activité humaine sur le milieu naturel, mais aussi dans celui des implications de contraintes environnementales sur la vie sociale. Et enfin, dans cette perspective, en invitant sciences de la nature et sciences de la société à développer des interactions et des échanges dans un esprit interdisciplinaire, de manière à poursuivre la construction en commun et indissociablement scientifique, économique et politique de la question environnementale. Sans pour autant remonter à Rousseau ou même à Ronsard qui plaidait pour la préservation des forêts, en exhortant le bûcheron à arrêter un peu le bras, tous ceux qu'on a pu appeler des semeurs d'environnement, en somme, les auteurs reviennent sur l'émergence concomitante dans les années 60 du souci de la protection de la nature et de nouvelles formes de contestation et d'engagement politique en marge des partis institués et du mouvement syndical, et qui se sont notamment illustrés dans les expériences autogestionnaires, comme celle de l'entreprise franc-comtoise des montres LIP. L'écologie politique serait la résultante de l'élan post-68ard de retour à la terre et de la dynamique citoyenne enclenchée par ce qu'Alain Touraine avait défini comme les nouveaux mouvements sociaux, régionalistes, féministes, étudiants, consommateurs ou antinucléaires. Ceux-ci ont créé une sorte de culture politique commune, collective, de l'intervention et de la concertation sur des problèmes concrets, comme la mobilisation contre un projet urbanistique et autoroutier dans le parc de la Vanoise, ou contre l'extension du camp militaire sur le plateau du Larzac, et évidemment contre l'implantation de centrales nucléaires. À ces nouveaux usages de la citoyenneté, le boom associatif des années 80 va apporter des perspectives élargies et de multiples débouchés. Entre contestation et participation, les 40 000 associations qui voient le jour dans cette période en matière de cadre de vie, d'environnement et de patrimoine rural et paysager vont développer un rôle d'expertise, de médiation entre le local et le global et trouver leur place dans les différentes instances de décision. Un engagement favorisé par la mise en place des cadres institutionnels de la participation citoyenne par les politiques publiques qui visent une démocratisation des processus de décision. Deux lois sont emblématiques à cet égard, auxquelles sont accolés les noms de deux ministres de l'Environnement, Huguette Bouchardeau et Michel Barnier, des lois relatives à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. L'ensemble va créer une sorte de constellation sémantique où sont associées les notions de citoyenneté, de démocratie, de gouvernance et de participation comme moyen de mise en œuvre du développement durable. Et le mouvement altermondialiste, les partisans de la décroissance, viendront s'agréger à la nébuleuse associative. En matière d'interdisciplinarité, Chantal Aspe et Marie Jacquet citent l'exemple du concept de résilience qui désigne la capacité d'un organisme ou d'une structure à s'adapter à d'un environnement changeant ou d'un matériau à revenir à sa forme initiale après avoir subi un choc. En écologie, la résilience définit la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation, tout en conservant la mémoire des désorganisations antérieures. Venu de la physique, utilisée en psychanalyse, puis en écologie, il trouve aujourd'hui une pertinence et une efficience en sciences sociales. Il fait partie de ces concepts qui induisent la vision unifiée de la nature et de la société dont parle Joël de Ronet et dont les auteurs ont retrouvé la trace concrète dans leur enquête de terrain sur les canaux d'irrigation en Provence depuis le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Ces canaux illustrent une gestion collective de la ressource et jouent un rôle à la fois écologique et social.
Merci Jacques. Donc Environnement et Société par Chantal Aspé, Marie Jacquet, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et puis la revue du jour, c'est la revue Mouvement numéro 70, Vers les droits de la nature. Et la revue Mouvement est éditée par La Découverte.
Voilà, Vers les droits de la nature. Alors c'est une livraison qui propose un retour sur le sommet de Rio. C'était le premier sommet de la Terre de Rio en 1992 qui avait imposé la notion de développement durable, qui tente de concilier la question sociale, le respect de l'environnement et la croissance. Alors aujourd'hui, on préfère parler d'économie verte, ce qui suppose l'ouverture d'un nouveau marché, celui de la nature. Cette livraison donc revient sur l'un des deux thèmes qui ont été mis à l'ordre du jour de Rio plus 20, qui s'est tenu la semaine dernière, avec celui de la gouvernance mondiale, l'économie verte, à laquelle les auteurs de cette livraison préfèrent la perspective d'une nature dont les droits seraient reconnus et défendus, voilà, avec notamment un article de Jean-Marc Salmon qui rappelle que la conférence mondiale sur le changement climatique en 2011 à Durban a démontré que les avancées de la négociation planétaire seraient plus lentes que la dégradation climatique.
Tiens, vous me faites penser que je demanderai à Daniel Cohn-Bendit le bilan carbone du bâtiment où on se trouve.
Oui.
Je crains la réponse. Merci Jacques Munier. La revue du jour, l'essai du jour, bien sûr, à retrouver, télécharger sur franceculture.fr, ainsi que le texte, bien sûr, de votre chronique à retrouver, bien sûr, tous les jours. On se retrouve demain à Paris, cher Jacques.
Bonne journée à Bruxelles.